Bonsoir, ça va bien tout le monde? Yes. J'ai besoin juste d'un petit... Est-ce qu'on peut me donner un petit peu de lumière dans la salle? Je ne veux pas quand même vous en donner trop, mais juste un peu. Est-ce qu'on peut m'en donner un petit peu, juste pour que je vois un petit peu les visages? Pas beaucoup. OK. Yeah. C'est beaucoup. Vous êtes comme... Il n'y a pas d'entre-deux, hein? Non, mais c'est correct. Juste à main levée. Qui m'a déjà entendu prêcher? À main levée. OK. Qui m'a jamais entendu prêcher? À main levée. Plus. OK. Qui ne veut pas m'entendre prêcher? À main levée. Allez, toi, dégage. Allez, dégage. Je suis très, très heureux d'être avec vous ce soir, ce week-end. Comme l'a dit Pierre, je sors seulement une fois par année. Mon nom, c'est David Potier. Je suis pasteur de La Chapelle, une église en implantation au cœur de la ville de Montréal, au Québec. Je suis marié à Karine depuis 18 ans et j'ai 4 enfants, Anthony, Zachary, Léa et Naya, qui ont 12, 10, 8 et 6 ans. Et on a un cinquième en route. Non, c'est pas vrai, c'est fini. On aura pu... J'essaie, mais ma femme veut plus. Elle, c'est fini pour elle. J'aimerais qu'on puisse ensemble prier un instant pour demander au Seigneur de vraiment venir porter ses paroles, puis que ses paroles puissent pénétrer dans nos cœurs et transformer nos vies. Vous êtes d'accord avec moi? Penchons la tête, Seigneur Jésus, nous sommes ici par toi, pour toi, Seigneur Dieu. Et je prie que ton esprit, Seigneur, s'empare de nous, que ton esprit nous parle au plus profond de nos âmes. Je prie que ta parole, Seigneur, ne demeure pas sans effet, que ton esprit, Seigneur, m'inspire les paroles, porte cette parole et la fasse pénétrer dans le cœur de chaque personne qui est ici, chaque chrétien, chaque croyant, mais aussi peut-être quelqu'un qui ne connaîtrait pas ton nom, quelqu'un qui n'est pas un de tes enfants, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je prie pour chacun, que chacun soit touché par l'Esprit de Dieu et que cette parole porte un fruit abondant dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur pour ce qu'il va faire à l'avance ce soir? Le thème du message de ce soir, c'est comment développer une atmosphère de foi. Une des choses les plus importantes qu'un croyant, qu'un jeune adulte doit apprendre, c'est à développer, à cultiver une atmosphère de foi dans sa vie. Maintenant, je sais qu'Hébreux 2:12 dit que c'est Dieu qui est l'auteur de la foi et c'est Dieu qui est le perfectionneur de la foi. C'est Dieu qui te donne la foi et c'est Dieu qui amène ta foi à grandir à la perfection. On sait ça. Mais la Bible aussi enseigne qu'il y a des choses qu'on peut faire pour collaborer avec Dieu qui vont faire grandir notre foi ou il y a des comportements qu'on peut avoir qui vont au contraire détruire notre foi. Et c'est important d'apprendre à cultiver cette atmosphère-là de foi dans toutes les dimensions de ta vie. C'est important au travail. Je lisais ce livre de Marie-France Irigoyen, c'est une psychanalyste française, qui s'appelle « Les nouvelles solitudes ». Elle expliquait comment les relations de travail sont de plus en plus durcies en France. La précarité, la peur de perdre son emploi, la compétition, ça fait que la camaraderie est en train de disparaître sur les milieux de travail. Et elle parlait du sujet au niveau de la France. Mais il y a cette tension, il y a cette compétition. Tu as besoin de développer une culture, une atmosphère de foi dans ton travail, dans ton boulot. Tu as besoin aussi de développer une atmosphère de foi dans l'église, dans cette église. Il y a des églises où tu rentres où c'est la mort, littéralement. Tu rentres dans l'église et c'est la mort. Et j'aime être ici. Je suis très heureux d'être avec vous et je suis béni d'entendre les témoignages. J'avais quelques conversations avec Pierre et quelques leaders de JAP et on m'expliquait la croissance. J'étais venu ici il y a quelques années, c'était moitié de jeunes adultes. La moitié de la salle était remplie. Là, la salle est remplie au complet. J'étais béni d'entendre ce que Dieu fait. J'étais béni d'entendre que Dieu fait des choses encore extraordinaires, que Dieu brise encore des chaînes. Des jeunes adultes à Paris, Dieu brise des chaînes aujourd'hui. Il se passe des choses extraordinaires. Il y a une atmosphère de foi qui est en train de se bâtir dans cette église, dans cette congrégation. C'est important. C'est important aussi de développer une atmosphère de foi dans notre mariage. Qui est marié ici? Qui voudrait être marié ici? OK. Pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui veulent se marier, c'est important d'apprendre à cultiver l'atmosphère de foi dans ton couple parce qu'on le sait tous, c'est plus d'un mariage sur deux qui vont au divorce, qui terminent en divorce. C'est important d'apprendre à cultiver cette atmosphère de foi. Les gens ne se battent plus pour leur couple. Les gens ne sont plus engagés. On a besoin d'une atmosphère de foi dans nos foyers, dans nos maisons, mais surtout, on a besoin d'apprendre à cultiver une atmosphère de foi dans nos propres cœurs. Parce qu'avant d'avoir une relation avec les autres, savez-vous quoi? Avant d'avoir une relation avec les autres, on a une relation avec nous-mêmes. Et la relation qu'on a avec nous-mêmes peut fortifier notre foi ou détruire notre foi. Il y a plein de trucs qu'on passe notre temps à se raconter qui écrasent notre foi. Il faut que tu apprennes à développer une atmosphère de foi dans ton propre cœur, dans ta vie intérieure. Une atmosphère de foi. Si on n'apprend pas à développer cette atmosphère-là dans nos vies, on peut manquer le bateau, comme on dit au Québec. Tu peux manquer le bateau. Tu peux être en contact avec le miraculeux de Dieu et le manquer complètement. Il y a des exemples de ça dans la Bible. Et celui qui me vient à l'esprit, c'est lorsque Jésus est en train de prêcher dans Jean chapitre 12, et il y a une voix du ciel qui vient témoigner, qui vient affirmer, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Et il y a des gens qui étaient là, témoins du miraculeux, qui ont entendu la voix miraculeuse parler, et leur réponse a été, « Oh, mais c'est juste le tonnerre. » Quand tu n'as pas la foi, tu peux être en contact avec le miraculeux de Dieu. Dieu peut être en train de faire un miracle dans ta vie. Dieu peut être juste sur le point de faire un miracle dans ta vie. Mais parce que tu n'as pas cette foi, tu peux être totalement aveuglé à ce que Dieu veut faire. Et on va regarder ensemble à comment cultiver une atmosphère de foi. Et notre texte de base va être Nombre chapitre 13. Et avant de lire quelques versets, je vous donne le contexte. Le peuple d'Israël a été esclave dans le pays d'Égypte pendant 400 ans. Et Dieu, à coup de miracle, les a sortis de l'esclavage des Égyptiens. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge et Dieu a ouvert la mer pour les faire traverser à sec. Une expérience miraculeuse extraordinaire. Et une fois de l'autre côté, ils étaient maintenant prêts à faire le voyage vers la terre promise. Et avant d'aller dans la terre promise, il y avait un désert à traverser. La vie m'a appris, l'expérience chrétienne m'a appris qu'avant chaque terre promise, il y a toujours un désert. T'aspires à te marier, il y a un désert. T'aspires à être diplômé, il y a un désert. T'aspires à avoir une relation plus profonde avec le Seigneur, il y a parfois un désert. T'aspires à changer de boulot, il y a un désert. T'aspires à changer de femme, oublie ça, c'est pas une bonne idée. Vous savez, la terre promise, avec quand on pense à ta femme, si tu es marié, la terre promise, ce n'est pas d'avoir une autre femme. La terre promise, c'est de passer toute ta vie avec ta femme, à la gloire de Dieu, puis de pouvoir dire à la fin de tes jours, on l'a fait, comme on dit chez nous. On met l'accent sur le T, on l'a pas fait. On l'a fait, on est resté ensemble jusqu'au bout, à la gloire du Seigneur. Moi, je pense que c'est ça, entrer dans la terre promise en couple. Tu aspires à voir quelqu'un de ta famille venir à Christ? Il y a peut-être un désert avant. T'aspires à démarrer une entreprise ou tu es en train, là, de démarrer une entreprise. Et peut-être qu'il y a un désert. T'aspires à servir Dieu dans un ministère ou un contexte particulier. Il y a peut-être un désert avant. Mais je vous pose une question. Est-ce que c'était absolument nécessaire pour Israël de passer à travers le désert avant de rentrer dans la terre promise? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était absolument nécessaire? Est-ce que c'était la seule possibilité? On a la réponse dans Exode, chapitre 10, 13. Regardez à l'écran. Exode 13. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert. Est-ce qu'ils étaient obligés, absolument obligés de passer par le désert? Non. Mais Dieu a choisi, lui, de les faire passer à travers le désert. C'est Dieu qui les a amenés là. Il y a des gens qui sont ici ce soir, puis peut-être que tu traverses un désert présentement. Peut-être qu'il y avait un chemin pour ta vie qui semblait plus court, plus facile. Peut-être que tu aspirais à quelque chose, puis tu voyais un chemin tracé, puis tu disais, c'est ça. Et au lieu d'atteindre une terre promise, tu t'es retrouvé au plein milieu d'un désert. Puis peut-être que tu as pensé que c'était un signe que Dieu t'avait rejeté ou abandonné. Mais en fait, ce n'était pas un signe d'un manque de bénédiction. C'était un signe de la protection de Dieu. Dieu les emmenait au désert pour les protéger parce que Dieu savait que s'ils allaient tout de suite dans la terre promise et qu'ils voyaient les défis qui les attendaient, ils auraient lâché. Ils auraient abandonné. Alors Dieu, pour les protéger, les a amenés au désert. J'aimerais que ce soit un encouragement pour quelqu'un, si ce soir peut-être tu traverses un désert. Maintenant, le désert, ce n'est pas une punition. Le désert, c'est une protection. Dieu est en train de te protéger quelque chose. Puis il faut apprendre à dire parfois, merci Seigneur pour les déserts. Parce que si le désert n'avait pas existé dans ta vie, peut-être que présentement, tu serais tellement loin de Dieu, tu n'aurais aucun souci pour le Seigneur. Tu ne serais même pas près de lui. Mais parce que Dieu t'aime, il t'a amené au désert. Je me souviens d'un désert que j'ai traversé dans ma vie. J'aspirais depuis des années et des années à être dans ce qu'on appelle le ministère temps plein, être un pasteur. J'aspirais à ça. Et c'était fort sur mon cœur, ça brûlait. Puis je me disais, ça se peut pas que Dieu mette un désert si fort, puis pas le faire, pas l'accomplir. Je comprenais pas. Et j'avais des aspirations et j'avais aussi parfois des offres. Il y a des gens qui venaient me voir, disent, tu veux-tu être pasteur de jeunesse pour nous? Est-ce que tu veux être pasteur de jeunes pour nous, pasteur d'ado pour nous? Et je refusais ces offres-là. Et je me souviens une fois, il y a une des offres que j'ai refusées et j'avais tellement le goût. J'avais tellement le goût de dire oui, mais je savais que si je disais oui, j'allais désobéir au Seigneur. Alors j'ai dit non. J'ai dit non, puis pour moi, c'était un désert. Pour moi, c'était de rester dans le désert. Je me dis, Seigneur, ça, c'est le rêve que tu as placé en moi, mais tu me demandes de dire non encore à ce rêve-là. Tu me le places devant moi, puis tu me demandes de dire non. Et je savais que si je disais oui, j'allais désobéir à Dieu. Et quelques mois plus tard, le pasteur qui m'avait offert de me joindre à lui comme pasteur de jeunes, il a eu un scandale dans sa vie. Il y a une chute morale qui a été dévoilée et son ministère a été complètement, complètement balayé. Et moi, si j'avais été simplement son pasteur jeunesse, même si j'avais pas été impliqué dans les événements, j'aurais été quand même sali avec cette vague-là. Dieu me protégeait. Dieu est en train de me protéger. J'aimerais dire, il faut apprendre à dire merci Seigneur pour les déserts. Et nombre 13 vient faire le contraste entre une atmosphère de foi, une culture de foi, et une atmosphère d'incrédulité. On va lire ensemble Nombre 13, verset 26. Voici ce que ça dit. « À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute la communauté d'Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les fruits du pays. » Ce qui se passe ici, c'est tout simplement que Moïse a envoyé... Ce qui se passe ici, c'est que Moïse a envoyé des espions dans la terre de Canaan avant d'entrer dans cette terre que Dieu leur a promis. Il a envoyé des espions pour voir, pour explorer. Et il y a 12 espions et ils sont revenus avec deux rapports différents. Un rapport qui était celui de Josué et de Caleb et un rapport qui était celui des 10 autres espions. Et il y avait deux visions des choses, les mêmes événements, les mêmes défis, mais deux rapports complètement différents. Et j'ai relevé dans ce texte de Nombre 13, 5 ou 6 contrastes entre une atmosphère de foi et une atmosphère d'incrédulité. Et on va les passer rapidement, un à un. Voici ce contraste entre la foi et l'incrédulité. Premièrement, l'incrédulité focus sur les... Focus, ça vous dit quelque chose, ça? Non? OK. L'incrédulité focus sur les problèmes, mais la foi focus sur les possibilités. Nombre 13, 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel. » Ça, c'est le rapport des 10 espions. « C'est bien un pays découlant de lait et de miel et en voici les fruits, mais... » Suivant. « Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. » Nous y avons même vu des enfants d'Anak. C'était une race d'êtres humains qui étaient des géants. Ça, c'est le rapport des 10. Voici le rapport. C'est un rapport qui regarde aux problèmes au lieu de regarder aux possibilités. Et en Occident, mais surtout, surtout en francophonie, on a tellement, tellement cette tendance, c'est dans nos gènes, notre ADN, on regarde aux problèmes au lieu de regarder aux possibilités. On regarde les infos à la télé, c'est toujours les problèmes. On lit les journaux, c'est toujours les problèmes. Même lorsqu'on donne des statistiques, on les donne toujours de la partie négative. 50% des mariages finissent en divorce, mais il y a 50% des mariages qui réussissent. Mais on ne dit pas 50% des mariages réussissent, on dit 50% des mariages finissent en divorce. On a cette tendance-là à toujours regarder aux problèmes au lieu de regarder aux solutions. On a cette tendance en tant que francophone à être cynique. Et on peut même spiritualiser cette attitude-là. Puis parfois, on se demande pourquoi c'est plus dur en francophonie. C'est plus dur en francophonie. C'est vrai. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il y ait quelque chose en nous Une racine d'incrédulité, une racine de français, là, mais pas français d'aujourd'hui, vieux français, ça vient de loin. Parce que nous, au Québec, on l'a aussi, cette racine-là. On l'a, cette racine d'incrédulité, de cynisme en nous. On regarde les problèmes, mais c'est toujours les problèmes, jamais, jamais les possibilités. Mais regardez le rapport de Josué. Les mêmes événements, mais le rapport est différent. Slide suivante. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de, je sais pas qui, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté d'Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très, très bon pays. Voyez-vous, lui, premièrement, au lieu de voir les problèmes, il voit d'abord les possibilités. Ensuite, si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Le gars a vu la même chose que les autres. Mais plutôt que de voir les problèmes en premier, il voit les possibilités en premier. Plutôt que de voir l'impossibilité, il voit comment Dieu est grand. Il focus sur la grandeur de Dieu. Et il n'est pas dans le déni. Josué n'est pas dans le déni. Josué a vu les mêmes défis et les mêmes problèmes. Savez-vous que l'année dernière, j'ai fait quelque chose de très... Je n'avais jamais fait ça, puis je n'avais jamais pensé à ça, puis je n'ai jamais entendu personne faire ça. Mais chez moi, à la maison, j'ai pris le dictionnaire. OK? C'est un Robert. J'ai pris le dictionnaire et j'ai découpé le mot « impossible ». Parce qu'il n'est pas biblique, ce mot-là. Ça le dit. Rien n'est impossible à Dieu. OK? C'est Jésus qui l'a dit. Alors, j'ai pris le dictionnaire et j'ai littéralement découpé le mot « impossible ». Et par le fait même, je n'ai pas fait exprès, mais ça a aussi enlevé le mot « impôt » de mon dictionnaire au verso. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voyez-vous, Josué focus sur les possibilités. Toi, tu focuses sur quoi? Dès qu'il y a un défi qui est présenté à toi, qu'est-ce que tu vois en premier, la possibilité ou le problème? Et il y a une progression dans le langage de Josué. Si on peut remettre la slide d'avant. Si l'Éternel, juste, oui, vous l'aviez. Si l'Éternel nous est favorable, voyez-vous, il n'est pas tout de suite dans l'affirmation. Yeah! On va gagner! Non, non, pas tout de suite. Il dit, si l'Éternel nous est favorable. Il commence à parler comme ça. Mais quand tu as un langage qui parle en termes de possibilités, la foi commence à monter en toi. Tu commences à déclarer des choses, puis peut-être que tu n'es pas tout à fait convaincu de ce que tu dis, mais tu développes une culture et un langage de foi, une atmosphère de foi. Et quand tu commences à en parler, laissez ma slide, s'il vous plaît. Si l'Éternel nous est favorable, il passe lentement, et je ne sais pas c'est quoi le processus, c'était-tu 5 minutes, c'était-tu 2 minutes, c'était-tu 2 jours, mais entre le début, si l'Éternel nous est favorable, mais regardez comment il finit. Ils nous serviront de pâture. Nous, au Québécois, on dit, on va en faire juste une bouchée de pain. On va en faire une bouchée de pain. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Vois-tu, quand tu regardes aux possibilités, il y a un langage que tu commences à avoir et il y a une foi qui commence à monter dans ton cœur. Regarder aux possibilités fortifie notre foi. Oui, il y a des problèmes. Mais Dieu va se glorifier à travers les circonstances que tu vis. Dieu va se glorifier à travers ça. Oui, il y a des problèmes, mais toutes choses concourent vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu dis vraiment, je sais que ça n'a pas de l'air, je sais que tu n'as pas de l'air à le croire, je sais que ça ne semble pas avoir de sens, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot avec ta vie. Dieu n'a pas fini avec ça. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être célibataire parfois, mais tu as des possibilités. Tu as des possibilités que personne qui est marié n'a. Tu peux servir Dieu d'une façon que les autres ne peuvent pas. C'est vrai que peut-être que tu as perdu ton travail, mais tu as des possibilités. Tu as la possibilité de trouver un travail qui t'est meilleur. Tu as la possibilité de te positionner à un endroit meilleur. J'aimerais qu'on puisse ensemble croire pour des possibilités ce soir, pour ta vie, mais pour Jap aussi, parce que Dieu vous a placé dans un endroit extraordinaire. J'adore Paris, j'aime Paris, j'aime cette ville. Si je vivais à Paris, l'endroit où je voudrais être à l'église, c'est à Bastille. J'aime la place de la Bastille. Et ce que j'aime ici, savez-vous pourquoi j'aime être ici? C'est parce qu'ici, il y a tellement de jeunes adultes dans les rues. C'est hallucinant.
J'ai jamais vu un enfant. Et jusque très, très tard le soir, Dieu vous a placé à un endroit de possibilités extraordinaires.
Mais Dieu veut tirer votre foi. Dieu veut faire grandir votre foi. Y a-t-il quelqu'un ici qui a soif de possibilités? Qui dit, Seigneur, moi, là, je vais arrêter de regarder juste au problème. Je ne veux pas être dans le déni par rapport au problème, mais j'ai soif de possibilités dans ma vie, dans mon église, dans le groupe JAB. J'ai soif de possibilités. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de possibilités de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Les possibilités. J'avance deux. L'incrédulité prononce des paroles de découragement, mais la foi prononce des paroles d'encouragement. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. La foi parle en termes d'encouragement. L'incrédulité parle en termes de découragement. Et dès qu'il arrive un événement, il faut que tu commences à parler avec le langage de la foi. Pas tout de suite dire, ah, c'est la fin du monde, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, il faut que la foi parle avant l'incrédulité. Dieu n'a pas fini avec ça. Dieu va faire quelque chose avec ça. Peu importe, tu as un mauvais rapport de ton médecin, tu as un mauvais rapport. Tu ne sais pas ce qui va avec ta santé. Dieu n'a pas fini avec ça. Tu as perdu ton boulot, ton travail. Dieu n'a pas fini avec ça. Ça prend un langage d'encouragement. Et une de mes prières que j'ai pour vous, c'est que dans cette place, il va y avoir tellement d'encouragement. Et je sais que ce n'est pas naturel pour vous, les Français. Okay? C'est vraiment pas naturel pour vous autres. Vous ne l'avez pas pantoute, okay? Mais pas pantoute. Vous n'êtes pas bon dans l'encouragement. Savez-vous, les Québécois, on est aussi pas bon que vous. On n'est pas bon pour encourager. Tu vas aux États-Unis, tu vas dans des endroits... J'y vais souvent dans ces endroits. C'est fou. Tu parles avec un Texan. Oh yeah, God is great. David, you do great ministry, man. This is amazing. Amazing, man. Amazing. C'est tout le temps amazing. C'est tout le temps great. C'est tout le temps extraordinaire. C'est tout le temps wow. Puis nous autres, c'est jamais... C'est, on cherche le... Il faut que cet endroit soit un endroit d'encouragement. Et j'ai à cœur de dire ceci. Si vous voulez voir des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, des un-church people, des gens qui ne viennent jamais à l'église, des gens qui n'ont jamais été à l'église, commencez à venir en masse dans vos réunions, être obligé de multiplier, c'est plein ce soir, mais vous allez devoir multiplier, je crois, dans l'avenir. Si dans cette place, il y a de l'encouragement, les gens qui ne croient même pas en Dieu vont vouloir venir dans cette place. Parce qu'ils vont dire, je ne sais pas si je crois ce qu'ils croient, je ne sais pas encore, où ils vont dire, je ne crois même pas en Dieu, mais j'aime aller là. J'aime aller à JAB parce que quand je vais là, c'est comme, ouh! Est-ce que ça ne devrait pas être plutôt ça, l'Église? Est-ce que ça ne devrait pas ressembler à ça? Il faut qu'on devienne des maîtres dans l'art de l'encouragement. Et parfois, quand on parle en termes de découragement, c'est juste la manifestation de notre incrédulité qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Trouve le 1% de bon. Tu dis, lui, il n'y a rien de bon. 99,9% pas bon. Trouve le 0,1% d'extraordinaire et dis-y comment il est extraordinaire. Dis pas qu'il y a juste 0,01% d'extraordinaire, mais commence à parler bénédiction dans sa vie, encouragement, encouragement. Si vous avez, si nous avons un langage d'encouragement, il y a une atmosphère de foi qui va se développer dans cette église-là, mes amis. On va croire que tout est possible. C'est pas juste parce qu'on va se craquer à penser que tout est possible. C'est que l'Esprit de Dieu va venir briser des choses en nous, des forteresses, des murs d'incrédulité qui étaient là. Puis on va commencer à penser comme Dieu pense. Puis on va commencer à croire que c'est vrai que tout est possible. Et c'est vrai que c'est possible de voir des jeunes de cette rue qui consomment, qui sont loin de Dieu, les voir rentrer dans ce lieu et que leurs chaînes soient brisées. C'est vrai, c'est possible, mais on a besoin de devenir une église d'encouragement qui donne un langage d'encouragement à des gens qui ont tellement besoin d'encouragement. Trois, l'incrédulité magnifie les problèmes, mais la foi magnifie le Seigneur. Je vais aller plus vite, je ne vais pas lire le texte, mais ce qui se passe, c'est que dans le langage des espions, il magnifie le problème. Leur langage est « Nous étions aux yeux des enfants d'Anak comme des sauterelles. » Maintenant, je suis sûr que tu n'as jamais vu un enfant d'Anak, OK? À moins que ta mère s'appelait Anak, ce qui serait vraiment pas une bonne nouvelle pour toi. Mais un enfant d'Anak, c'est un géant, comme le géant Goliath que le roi David a tué, OK? Ça mesure environ 3 mètres. cette espèce de personne, OK? 3 mètres, c'est pas des sauterelles. OK, un homme de 3 mètres, c'est grand. Mais c'est pas vrai que c'est une comparaison juste. Mais parce qu'ils sont incrédules, leur langage est incrédule. Et parce qu'ils sont incrédules, ils magnifient les problèmes. Vous savez, c'est quoi magnifier? C'est rendre quelque chose plus grand. Plus grand que ça l'est en réalité. Ils magnifient les problèmes. Ils exagèrent les problèmes. Est-ce quelqu'un ici qui a tendance à exagérer les problèmes? Hein? Non, personne. OK, juste moi. Hein? Seigneur, c'est la fin du monde! Non, non. J'ai tendance à exagérer les problèmes. Mais la foi ne magnifie pas les problèmes. La foi magnifie le Seigneur. Puis vous savez, il y a une différence entre magnifier un problème et magnifier le Seigneur. Parce qu'un problème, c'est vrai qu'on le rend plus gros que ce qu'il est. Mais le Seigneur, on ne peut pas le rendre plus grand que ce qu'il est vraiment. Alors, ce n'est pas le Seigneur qui a besoin qu'on le magnifie. C'est nous qui avons besoin de croire que le Seigneur il est vraiment grand. C'est pour nous qu'on a besoin de magnifier le Seigneur. Comprenez? Dieu nous aime tellement. Dieu n'est pas là. Adorez-moi. J'aime tellement ça quand vous m'adorez. Dieu n'est pas narcissique. Hein? Dieu veut qu'on l'adore parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu nous a créés pour l'adorer. La foi magnifie le Seigneur. Il y a un couple que j'aime tellement, c'est la famille Aubu. Ils vont apparaître à l'écran. J'ai une photo de cette famille. Je crois que c'est en 2008. En 2008, cette petite est décédée. Accident de voiture avec sa maman. On était en train, j'étais un employé de l'Église Nouvelle-Vie. À ce moment-là, on préparait notre distribution de panier de Noël pour les gens pauvres dans notre communauté. Et le papa était en train de servir à nos paniers de Noël avec le fils. Et la maman se promenait en ville avec sa jeune fille de 14 ans. Puis, ils ont fait un accident de voiture, collision latérale. La maman a survécu, mais la petite de 14 ans est décédée. Et je me souviens comment, nous, on avait pleuré, les pasteurs jeunesse. Ça nous avait brisé le cœur, mais... Les souvenirs les plus vivides que j'ai de ce moment-là, ce n'est pas la nouvelle qu'on nous a annoncée de la mort de la petite. Les nouvelles, les moments que je me souviens le plus fort, c'est le dimanche suivant à l'église. L'église Nouvelle-Vie, c'est une grande église, alors ce n'est pas tout le monde qui était dans le deuil. Comprenez, une petite église, lorsqu'arrive un deuil, c'est toute l'église qui est dans le deuil. Mais une très, très grande église, c'est simplement une partie de l'église qui est dans le deuil. Mais je me souviens qu'il y avait le papa qui était là, Christian, avec son fils. Et il s'assoyait toujours 3e ou 4e rangée, 1er banc. Là, il était toujours assis ici, à la place de cet homme. Et dans ce temps-là, à l'Église Nouvelle-Vie, les pasteurs, on s'assoyait sur l'estrade. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on faisait ça, mais dans ce temps-là, on faisait ça. Et je me souviens, lorsque la louange a commencé, Christian s'est tout de suite levé. Et il était démoli, le gars. Vraiment démoli. Mais ses mains étaient en pleine extension, tout son corps. S'il avait pu être plus en extension que ça, il l'aurait fait. Il était tellement en extension, ses mains, tout son être était projeté vers le ciel. Les larmes coulaient sur ses joues. Puis je me souviens, nous, les pasteurs, on était assis là, puis on n'était même pas capable de chanter tellement que l'émotion était forte, parce qu'on voyait un homme que dans les pires souffrances, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Rien. Il n'y a rien de pire. Et cet homme-là, dans ses souffrances, qui magnifiait, pas les problèmes, qui magnifiait le Seigneur. Puis j'étais là, c'est ça. C'est ça, être chrétien. Tu glorifies bien plus Dieu à travers tes douleurs que dans tes bons moments. Et la façon dont tu vas réagir à la souffrance a tellement le potentiel. Des fois, on se dit, ah, si j'étais riche et si j'étais connu, je pourrais avoir un impact pour la gloire de Dieu. Laisse-moi dire, la façon dont tu vas réagir dans la souffrance va être très déterminante si tu vas glorifier Dieu dans ta vie. Et il y avait ce gars-là, Christian, qui magnifiait le Seigneur parce qu'il avait une foi solide et forte. J'aimerais te dire, magnifie pas le problème. Magnifie le Seigneur. Puis tu es peut-être dans une saison où tu n'as même pas la force de lever les mains, mais dis à ton âme, mon âme loue Dieu. Loue Dieu, mon âme. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de vie éternelle. Pourquoi je laisserais mes mains baisser? Pourquoi je ne me tournerais pas vers le seul qui peut faire du bien à mon âme qui est détruite? 4. L'incrédulité veut retourner en arrière, mais la foi veut aller de l'avant. Ça nous dit au verset 3 du chapitre 14. Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Si tu ne cultives pas une atmosphère de foi dans ta vie, tu vas toujours vouloir retourner en arrière. Et il y a des gens ici, là, ce soir, c'est pour toi ça. Parce que tu es là, tu es dans la maison de Dieu, tu es à Jappe, mais tu veux juste retourner en arrière. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, il y a des choses que tu as dû laisser en arrière. Il y en a qui ont laissé un copain ou une copine. Il y en a qui ont laissé des amitiés qui étaient des mauvaises influences. D'autres ont laissé un style de vie, un style de vie sexuel, un style de vie en affaires, au travail. Et si tu ne cultives pas cette atmosphère de foi dans ta vie, tu vas avoir des moments où ça va vouloir te rattraper, où tu vas sentir que c'est collé à toi, puis ça veut t'empêcher d'aller de l'avant, puis même te retourner dans ton passé. Un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, deux pas en arrière, 2 mois à l'église et 6 mois en dehors de l'église. Il y a des choses, j'aimerais dire, il y a des choses que lorsque c'est commencé, tu ne peux plus les arrêter. Et la vie chrétienne, ça fait partie de ça. Dieu t'a sauvé. Si Dieu t'a sauvé, tu peux être certain qu'il ne te laissera pas aller. Dieu va te poursuivre ardemment. Tu n'endormiras pas. Tu ne seras pas capable de t'éloigner du Seigneur. Il va falloir que tu capitules devant le Seigneur parce que lui ne te lâchera pas. Lui va dire, viens, reviens, reviens vers moi, reviens vers moi, encore et encore et encore et encore. Dieu va t'avoir à l'usure. Dieu va t'avoir à l'usure. Tout aussi bien de capituler devant Dieu. Perds pas des années à résister à Dieu. Casse devant Dieu, brise devant Dieu, cours dans les bras de Dieu. Regarde pas en arrière, regarde en avant. Comme Paul a dit, je cours pour remporter le prix. Je regarde en avant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans la maison de Dieu ce soir? Il y en a, tu es dans une saison que ça te fait mal, alors que tu as le goût de, tu regardes en arrière, ça fait trop mal, ça fait trop mal. Comme le peuple d'Israël qui disait, ah, oh, c'était-tu bon, les concombres en Égypte. Laisse faire les concombres. T'étais fouetté. Les concombres, je les sens quasiment. Il y a des choses que quand c'est commencé, on ne retourne pas en arrière. Devenir un chrétien, c'en est une. Okay? C'est comme accoucher. La femme ne peut pas décider, lorsqu'elle est ouverte à 10 cm, de dire, « Maintenant, change d'idée. » OK, moi, là, ma femme a accouché 4 fois. C'est quand même quelque chose. Okay? Quand tu vois ta femme accoucher 1 fois, tu gagnes du respect pour elle. Quand tu vois ta femme accoucher 2 fois, tu dis, ça se peut pas, ma femme, c'est une sainte, c'est impossible. Quand tu vois ta femme accoucher 4 fois, ta femme te dit quelque chose, tu dis, « Oui, chérie. » OK? Tu t'ostines même plus. Et je me souviens que dans la première grossesse de ma femme, nous, on a ce qu'on appelle la péridurale, OK? Mais ça vient avec, là. C'est presque automatique. On te force même à avoir la péridurale. Et ma femme ne voulait pas l'avoir. Elle ne voulait pas, pour ces raisons qui sont les siennes, elle ne voulait pas avoir la péridurale. Et je me souviens, elle était en travail, puis c'était fatigant. Moi, j'étais brûlé. J'étais fatigué parce que j'avais été faire du go-kart dans la soirée, et à 11h, ma femme a perdu ses os. Alors, on se ramasse à l'hôpital, et là, toute la nuit, en travail. Et là, l'infirmière qui venait, « Voulez-vous la péridurale? » Et là, ma femme disait, « Non, je veux pas la péridurale. » Elle revenait 15, 20 minutes plus tard, « Voulez-vous la péridurale? » »« Non, je veux pas la péridurale. » Et elle m'a amené, j'ai le goût de dire, « Moi, madame, est-ce que je peux l'avoir, la péridurale? » Et là, ce qui doit arriver arrive, le bébé sort. Puis, ce que tu te souviens le plus en tant que mari, là, c'est le passage de la vallée de l'ombre de la mort aux noces de l'agneau en un instant. Elle le prend dans ses mains, puis elle a totalement oublié sa souffrance. Pendant 5 minutes. Peut-être que tu traverses un moment de souffrance, puis tu te dis, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Puis tu as le goût de retourner en arrière. Mais j'aimerais te proposer, laisse la souffrance t'amener plus proche de Dieu. Savez-vous que Dieu et l'ennemi utilisent les mêmes choses? Dieu utilise la souffrance, c'est biblique. L'ennemi utilise la souffrance, c'est biblique. Et la façon que tu vas répondre dans la souffrance va déterminer de quel côté tu vas t'approcher. Est-ce que la souffrance va t'approcher de Dieu ou est-ce que la souffrance va t'éloigner de Dieu? Puis je ne connais pas ta souffrance, alors je ne suis pas en train de te dire « c'est pas grave », je ne suis pas en train de te dire « ça fait pas mal ». Je ne connais pas ta souffrance, mais Dieu la connaît. Et quand quelqu'un souffre vraiment, il n'y a rien qu'on peut lui dire qui va le consoler. Tu es là, tu essaies juste de pleurer avec la personne, ou parfois tu manques de sagesse puis tu dis des choses qui sont d'aucun réconfort. Ça va s'arranger. « Hey, parle pour toi, hein? » Des fois, il n'y a rien à dire. Mais quand je ne sais pas quoi dire à quelqu'un qui souffre, savez-vous ce que je lui dis? Regarde aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai lu dans les livres, parce que moi, je n'ai pas assez souffert, je n'ai pas de crédibilité, mais j'ai lu dans les livres que les gens qui ont vraiment souffert le plus, la seule chose qui leur donnait du réconfort, c'était de regarder aux souffrances du Seigneur Jésus. Et à travers les souffrances de Jésus, ils trouvaient un réconfort extraordinaire. Si tu es tenté de retourner en arrière, le Seigneur t'appelle. Regarde en avant, arrête de regarder en arrière. La foi, regarde en avant. L'incrédulité, regarde en arrière. Cinquièmement, l'incrédulité critique le leadership, mais la foi crie à Dieu. Le livre des Nombres aurait dû s'appeler le livre des murmures. Dieu le fait passer à travers la mer des gens. C'est un miracle extraordinaire. Ils arrivent de l'autre côté, ils murmurent à Mara parce qu'ils ont besoin d'eau. Après ça, Dieu leur donne de l'eau. Ils arrivent au désert de Sin, ils ont faim. Dieu leur donne de la manne. Ils murmurent parce qu'ils sont tannés de manger de la manne. Et ensuite, Dieu leur donne des cailles et ils murmurent parce qu'ils sont tannés de manger des cailles. Toujours en train de murmurer, toujours en train de râler. Des vrais Français. Vous me croyez pas? C'était des Français, ce monde-là! Vous me croyez pas? Je débarque de l'avion, je descends de l'avion, j'arrive à l'aéroport, et là, c'est un peu pacté de gens, il y a plein de personnes, puis là, ça se pousse un peu, puis à un moment donné, j'entends une femme, « Écartez-vous, j'ai une correspondance! » Et là, quelqu'un qui répond, « Mais tout le monde a une correspondance, madame! » Et moi, je me dis à moi, bienvenue en France. Pas fini. On arrive au carrousel et on attend pour avoir nos bagages, OK? Il y a une dame qui est là, elle tient sa valise avec la petite poignée et tout à coup, elle échappe sa poignée, mais vraiment discrètement, et sa valise tombe, même pas comme ça, sa valise tombe. Boum. Comme ça. Et son mari qui est à côté d'elle se lève la tête, pareil comme si c'était Armageddon. Il dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Et mon fils me regarde et dit, « Mais pourquoi il parle comme ça à sa femme? » Je dis à mon fils, « Bienvenue en France! » Non, mais c'est vrai, il râle à Horeb. Nous, on dit chialer. Vous, chialer, c'est pleurnicher. Nous, chialer, là, c'est râler, OK? Et les Québécois, on est des bons chialeux, nous autres aussi. Vous êtes des bons râleurs, on est des bons chialeux. Pas aussi bons que vous, mais on est presque aussi bons que vous. Il murmure. Il murmure à Horeb, il murmure au Sinaï. Et tout à coup, ils se mettent à murmurer contre leur leader. Ils murmurent contre Moïse et Aaron. Y en a-tu des râleurs ici? Hein? Est-ce qu'il y a des râleurs ici? Traduction. Allez, avouez-le. Lève la main, hypocrite français, parisien. Bande de râleurs. Vous êtes le peuple les plus râleurs sur la terre. Mais vous savez, c'est quoi râler? Râler, écoutez bien ceci, parce qu'on est vraiment bon au Québec aussi pour râler, faites-vous-en pas. Râler, c'est la verbalisation de notre manque de foi. Râler, là, c'est comme si, tout à coup, on ne peut plus le cacher, qu'on est incrédule. Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu qui va régler ces choses-là.
Alors, on fait du relâche. Le chialage, le relâche, c'est la verbalisation de notre manque de foi. Et on sent cela. On sent cela lorsque c'est dans la vie d'une personne qui, et tout le monde râle. Et je ne suis pas en train de mettre un joug sur ta vie. Tu n'es pas un bon chrétien. Non, non. Je suis en train de dire simplement, si on apprend un autre style de vie, si on apprend l'encouragement, il y a quelque chose qui va se passer dans nos cœurs. Il y a quelque chose. Il y a des églises qui se sont détruites complètement par le critique, par le murmure, par le relâche des églises qui ont été complètement détruites. Vous savez ce que j'ai dit à mon église? J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez me traiter comme si j'étais le meilleur pasteur au monde. Et je ne le suis pas. Mais je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais vous traiter comme si vous étiez les meilleurs chrétiens au monde et vous ne l'êtes pas. Il faut que tu traites tes leaders et ton pasteur comme si c'était Billy Graham. Et je ne parle pas d'abus. Il y en a qui étaient dans des églises, c'est de l'abus de l'autorité spirituelle. Le pasteur fait n'importe quoi, il est dans l'adultère, il vole l'église, mais il ne faut pas rien dire parce que ce n'est pas de ça que je parle. Les francophones, on a bien plus tendance à râler, à pointer constamment. Si vous voulez voir Jap grandir d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée, commencez à appuyer vos leaders comme vous ne les avez jamais appuyés. L'incrédulité, là, il critique les leaders, mais la foi crie à Dieu. Parce que lorsqu'on lit le livre des Nombres, le livre de l'Exode, lorsqu'on lit l'histoire de l'Exode, il y a un, je cherche le mot, mais un pattern. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Un pattern. Un schéma, merci. Il y a un schéma qui revient, et c'est le suivant. Le peuple murmura contre Moïse, et plus loin, mais Moïse cria à l'Éternel. Imaginez-vous la scène. C'est 1 million de personnes dans le désert. 1 million de râleurs. Quand ça se met à râler, la terre devait trembler comme ça. On retourne en Égypte, les concombres. Pour vrai, imaginez 1 million de personnes qui pleurent, qui chialent parce qu'ils pensent que Dieu les a amenés à un endroit qu'ils n'auraient jamais dû. Ils chialent contre leur leader, ils râlent contre leur leader. La terre devait trembler. Le peuple murmura contre Moïse, et ça revient plusieurs fois, mais Moïse cria à l'Éternel. Savais-tu qu'au ciel, un homme qui prie fait plus de bruit qu'un million de personnes qui râle. Pense-y. Pense à ça une minute. Au ciel, un homme, une femme qui prie parle plus fort qu'un million de râleurs. La voix de celui qui prie est plus forte que celle de toutes les autres mis ensemble. Ça veut dire que ça n'a pas d'importance si à ton boulot, ton patron chiale et râle contre toi. Parce que si tu es un homme, une femme de prière, oh, celui qui prie a une voix plus forte que celui qui râle dans les cieux. Dieu m'entend. Dieu m'entend. Dieu entendait plus Moïse qui priait qu'un million d'Israélites qui chialaient, qui râlaient. Ça n'a pas d'importance si ton ex est sur ton dos et raconte des mensonges sur toi. Parce que si tu es un homme et une femme qui prie, dans le ciel, ça va résonner plus fort qu'un million de râleurs. Imaginez, et c'est à cause de Moïse. Dieu a dit à Moïse, je ne vais pas détruire ce peuple-là à cause de toi. C'est à cause de toi que je ne le détruis pas. À cause que tu es un homme de prière, à cause que tu aimes ma présence, et c'est un type de Jésus-Christ, bien sûr. Mais c'était quand même Moïse, il n'était pas Jésus. Et Dieu lui a dit, à cause de toi, Moïse, à cause que tu es un homme de prière, quand tu pries au ciel, ça sonne fort. Ça s'entend. J'aimerais dire, soit un homme qui est entendu au ciel, bien plus fort qu'il est entendu sur la terre. Soit une femme qui est entendue dans les cieux. La foi critique le leadership. L'incrédulité critique le leadership, mais la foi crie à Dieu. Et je termine avec ceci. L'incrédulité cherche le repos dans le connu et dans l'absence de combat. Regardez bien la phrase. L'incrédulité cherche le repos dans le connu et l'absence de combat. Mais la foi cherche le repos dans la terre promise et la présence de Jésus. Je lisais un article dans un magazine canadien qui s'appelle le McLean. Et l'article disait comment les gens sont fatigués physiquement. Les gens ont de la difficulté à dormir.
le sommeil est de moins en moins bon, de plus en plus court. La vie dans les grandes cités comme Paris, dans les grandes villes comme Paris, est très, très stressante, très exigeante. Et le sommeil est de moins en moins bon. Et tu sais de quoi je parle? Tu as déjà pris des vacances, puis avoir l'impression que tu dois prendre des vacances pour te reposer de tes vacances, OK? Non? Pas vous? Oui, moi, ça m'arrive. J'ai déjà pris des congés, avoir l'impression de devoir me reposer, d'avoir pris des congés. La fatigue. Et beaucoup de chrétiens sont fatigués. Oui, physiquement, mais plus que ça. Spirituellement. Émotionnellement. Je ne parle pas d'une fatigue qui s'en va en deux jours, que tu passes deux bonnes nuits de sommeil et c'est fini. Je parle de quelque chose de plus profond que ça. Pourtant, Jésus dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Alors, pourquoi tant de chrétiens sont fatigués? Pourquoi on est si fatigués alors que Jésus nous a promis le repos? Et je crois qu'un élément de réponse vient dans la compréhension qu'on a du repos. Voici à quoi on associe ou on image, voici de la façon qu'on donne un portrait ou la façon qu'on a une image mentale du repos. Photo. Ça, c'est ce qu'on a en tête quand on parle du repos. Puis il y en a ici, je sais que vous êtes fatigué. Fatigué de servir le Seigneur, t'aimes le Seigneur, mais t'es fatigué. Et l'image qu'on a du repos, c'est ça souvent. Et si notre image du repos, c'est ça, on va toujours être fatigué. Toujours. Parce que est-ce que c'est ça le repos? Bibliquement. Hébreux 3. Est-ce qu'on peut mettre le texte à l'écran? Je termine avec cette pensée-là. Hébreux 3, 10 et 11. L'Épître aux Hébreux est un commentaire sur le livre des Nombres et de l'Exode en passant, et le Lévitique aussi. C'est pourquoi, c'est Dieu qui parle, je fus indigné contre cette génération, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert. Et je dis, leur cœur s'égare toujours, ils n'auront pas connu mes voies. Verset 11, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. OK, suivez-moi. Dieu appelle la terre promise le repos. Pour lui, c'est la même chose. C'est synonyme. Terre promise égale repos. Quand on pense terre promise, on pense à la photo qu'on avait sur la plage. Mais est-ce que c'est ça, la terre promise? Il y en a, vous n'avez pas lu l'histoire. Il y en a, vous l'avez lu, l'histoire. Il y avait les Cananéens, les Jébusiens, les Hétiens, les toute la liste. Puis Dieu dit à Israël, « Voici le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » OK? Il leur donne le pays, mais il y a des conquêtes et des victoires à s'emparer. Dieu, tu ne nous donnes pas le pays. Si tu nous donnais le pays, il n'y aurait pas tout ça à faire. Tu ne nous le donnes pas. Dieu dit, non, je te le donne. Tu me le donnes. Oui, je te donne le pays, mais il faut que tu t'en empares. Je te le donne, mais il faut que tu t'en empares. Et Dieu dit, la terre promise, c'est mon repos. Et si ta vision du repos, c'est une plage, la vision biblique du repos, ce n'est pas quelqu'un sur le bord d'une plage. Ça, ce n'est pas le repos biblique. Ça, c'est l'image mentale qu'on s'est fait. Et c'est pour ça que souvent, on est fatigué. Ah, oh, je suis fatigué. Si ça, c'était le repos, les gens qui vivent au bord de la plage seraient les gens les moins fatigués. Les gens retraités seraient les gens les moins fatigués. Des fois, c'est le contraire. Vois-tu, la terre promise, on l'appelait la terre qui dévore ses habitants à l'époque. Elle était tellement fertile que lorsqu'un peuple s'en emparait, il y a un autre peuple qui venait, ravageait ce peuple-là, les égorgeait, puis s'emparait de la terre. Et c'était un cycle sans fin. Et ça, c'est la terre promise que Dieu a donnée à Israël. La terre qui dévore ses habitants. Puis Dieu dit, ça, c'est un repos. Alors peut-être qu'on a une mauvaise définition du repos. Et si le repos, c'était beaucoup plus ceci. L'autre photo, s'il vous plaît. L'autre image. Et si le repos, c'était plus ceci. Une épée dans une main, une croix dans l'autre. L'épée, la guerre spirituelle. Rentrer dans terre promise, là, il y a des géants à conquérir. Il y a des peuples à vaincre. Il y a des défis. Ça va faire mal. Mais on a la croix de Jésus. Et si celui qui pouvait se reposer en Jésus,
n'est pas celui qui a une vision d'une vie chrétienne confortable, mais celui qui a une vision d'une vie chrétienne où ça brasse, comme on dit chez nous. Il y a des attaques, mais tu te penches, puis tu swings, puis tu plantes, puis tu coupes, puis tu te bats, puis tu pries, puis tu pleures, puis tu saignes, puis tu guéris, puis Dieu te restaure. Mais si la vision du repos, c'était ça, Jésus a dit, « Hey, je suis venu pour donner ma vie, mais maintenant, je vous demande de donner la vôtre. Puis si vous donnez votre vie, vous allez la reprendre, vous allez la retrouver. » J'aimerais dire à celui qui est fatigué, ne pense pas que le repos, c'est la plage. Le repos, c'est d'être dans la mission de Dieu, à l'endroit où Dieu t'appelle, puis même si ça fait mal, même si tu as un peu de sang qui coule, fais confiance à Dieu, continue à te battre pour le royaume de Dieu, continue à te battre pour gagner quelqu'un au Seigneur, continue à servir le Seigneur, et Dieu, lui, va te donner son repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La foi cherche le repos dans la présence de Dieu, peu importe les circonstances et peu importe les défis. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher, s'il vous plaît. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire ensemble. Il y a des gens, tu es ici, tu sais que tu vis en dessous de ce que Dieu t'appelle. Tu le sais. Tu sais que Dieu t'appelle à plus que ça. Et tu as besoin de faire un pas, de dire, moi, j'entre dans ma terre promise. Par la foi, j'entre dans ta promise. Tu vis en dessous, dans ta moralité, dans ton appel, dans tes relations, dans tes finances, dans ton ministère. Tu vis en dessous de ce que Dieu t'appelle. Puis tu sais, il y a quelque chose en toi qui te dit, il y a plus que ça. Dieu, tu as plus que ça. Tu as plus que ça pour moi. Si c'est toi, tu vis en dessous et Dieu t'appelle à entrer dans ta promise, ce soir, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais je vais prier aussi pour ceux qui traverseraient un désert. Vous savez, Dieu nous amène au désert et Dieu nous conduit au désert. Mais un désert ne devrait jamais durer tout le temps. On ne devrait jamais rester dans le désert. Dieu nous conduit au désert pour nous fortifier, pour nous former, mais il nous sort du désert. Et peut-être que tu es pris dans le désert, je veux prier pour toi. Le désert devait durer quelques semaines, mais Israël a duré 40 ans dans le désert. Dieu veut te sortir du désert. Tu es en dessous de ce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à entrer dans la terre promise. Tu vis dans le désert. Tu as été dans le désert assez longtemps. Dieu t'appelle à rentrer dans la terre promise. Et le troisième groupe de personnes que je veux prier pour toi, c'est si tu réalises ce soir que tu cultives une atmosphère d'incrédulité dans ta vie. Au lieu de cultiver une atmosphère de foi, par tes paroles, par tes pensées, par ta tendance à retourner en arrière, ta tendance à râler, à critiquer le leadership, par ta mauvaise conception du repos, tu t'aperçois que c'est pas une atmosphère de foi que tu cultives dans ta vie, c'est une atmosphère d'incrédulité. Puis tu dis, Seigneur, aujourd'hui, j'entre dans la terre promise. Israël n'est pas rentré dans la terre à cause de son incrédulité. Moi, je vais pas rester en arrière. Manque pas ce que Dieu a pour toi par incrédulité. Aujourd'hui, c'est le temps de dire, Seigneur, j'entre dans la terre promise. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la terre promise? Alors, je termine avec ces deux questions-là. C'est quoi ta terre promise? C'est quoi ta terre promise? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui brûle en toi? C'est quoi ta terre promise? Première question. Deuxième question. Qu'est-ce qui t'empêche d'y entrer? C'est quoi qui t'empêche d'y entrer? C'est un péché que tu ne veux pas laisser aller? C'est un schéma de vie que tu ne veux pas délaisser? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta terre promise? Et on va prier ensemble. Ce soir, on va prier pour ça. On va prier pour tous ceux qui disent, « Moi, Seigneur, je veux plus. Je veux entrer dans la terre promise. » Et les leaders, on va venir. Les pasteurs, les leaders, on va venir prier. S'il y a des gens qui veulent venir prier en avant, nous, on va prier pour vous et on va vous poser deux questions. Si on va prier pour toi, on va te dire, « C'est quoi ta terre promise? » Puis on va te demander, « Qu'est-ce qui t'empêche d'y entrer? » Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta promise? Et on va prier ensemble, on va briser les chaînes au nom de Jésus. Manque pas cette opportunité que ta vie puisse pivoter aujourd'hui. Il y a des moments que Dieu appointe, puis c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a sûrement quelques personnes ici que Dieu il a décrété ce moment-là comme un point tournant dans ta vie, le point où tu vas commencer à entrer dans ta promise. Puis c'est pas une plage, c'est une guerre, mais tu vas y aller vainqueur par le nom de Jésus. Alors si quelqu'un ici, est-ce qu'on peut pencher nos têtes ensemble, se lever. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse baisser les lumières dans la salle, s'il vous plaît.
Et si tu dis, me voici, j'entre dans la terre promise et je ne laisserai plus rien me retenir, et tu veux venir chercher Dieu, chercher la face de Dieu, et tu veux que nous, les pasteurs, les leaders, on prie pour toi, qu'il y ait une percée aujourd'hui. Je t'invite à t'avancer maintenant en avant. Viens maintenant, on va prier pour toi. Viens chercher le Seigneur maintenant. Viens, on va prier pour toi maintenant. Soyez pas gênés. S'il faut que tu bouscules deux, trois personnes, danse tes amis, dis-leur, je m'en vais en avant. Je m'en vais en avant. Avance. On va prier pour toi. Ça peut être un point tournant pour quelqu'un.